Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, il y eut un temps lorsque nous évoquions l'Algérie, c'était pour parler des manifestations du Irak du mardi et du vendredi. Aujourd'hui, c'est pour parler des arrestations d'activistes qui sont devenues quasiment hebdomadaires. On vient d'apprendre que plusieurs dizaines d'activistes ont été arrêtés, ce sont des membres du Irak. Ils ont été traduits devant la justice, devant le tribunal de Sidi Mohamed à Alger, selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. On sait qu'il y a 4 enseignants qui font partie de ces intellectuels qui manifestaient contre les autorités algériennes. Parmi eux, donc, 4 enseignants. Certains faisaient partie du Comité national pour la libération des détenus, justement, du Irak. Et puis, également, la Coordination nationale des universités pour le changement. Au total, plus d'une 20aine d'arrestations. Il y a en tout 6300 détenus politiques actuellement en Algérie. L'Algérie qui connaît toujours une situation hydrique absolument préoccupante. Alger a décidé de couper, d'ordonner l'arrêt du robinet dans les stations de lavage. C'est vrai que les karchers sont des outils formidables pour laver les voitures, mais il n'en reste pas moins qu'ils consomment énormément d'eau. La wilaya de Alger demande donc à ce qu'il n'y ait plus usage de ces karchers pour nettoyer les voitures, qu'il y ait une consommation de la ressource hydrique. Un nouveau plan d'ailleurs a été accepté pour rationner l'eau sur Alger. 3 zones notamment ont été décidées. La zone numéro 1, ce sont 14 communes de la capitale, par exemple dont il y a la Casbah. Là, l'eau sera accessible entre 8h et 14h. La zone numéro 2, elle compte celle-ci une 20aine de communes, notamment Bir Kadem. L'eau sera accessible entre 8h et 16h. Sinon, en zone 3, là, il y a 23 communes, notamment Bab El Oued. L'eau sera alimentée, accessible entre 8 et 16h, ou 8h ou 14h. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, les autorités algériennes sont en grande difficulté pour apporter de l'eau à leur population. Du fait, bon, c'est évident, de la ressource hydrique qui est moindre du fait de la chaleur, du fait de l'été qui s'approche, du fait du réchauffement climatique également. Pour ce qui est de la gestion des eaux, l'absence de barrages qui aurait pu aider à l'approvisionnement de la population civile en eau. Dernière information concernant l'Algérie, puisqu'il y a eu cette élection législative, cette décision du Premier ministre de présenter sa démission au président, ceci dans la pleine conformité de la loi, c'est l'article 113. Il est tout à fait normal que le Premier ministre présente sa démission une fois que les chiffres officiels d'une élection législative ont été annoncés, ceci est chose faite. À partir de demain, le président Tebboune va entamer des consultations avec les dirigeants des partis politiques, les représentants également des candidats indépendant. Il va s'agir de trouver une alchimie politique pour former une nouvelle équipe gouvernementale qui devrait être annoncée d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Ils se sont parlé, voilà bientôt 6 mois, que le président de la Tunisie, Kais Saied, et que le président de l'Assemblée, Khaled Hanouchi, ne s'étaient pas entretenus, en tout cas officiellement. On parlait de Carthage, ceci en marge des festivités pour la création de l'armée nationale. Voilà quasiment 6 mois que la presse tunisienne s'interroge sur ce que l'on appelle une rupture. Qu'est-ce que les hommes se sont dit? Alors, il y a beaucoup de spéculations dans la presse tunisienne. On peut rappeler ces éléments d'information, donc qui serait ce qui a été convenu entre les deux hommes. Précisons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'éléments de source officielle, donc tout cela est sujet à la plus grande prudence. Le président aurait accepté l'idée de valider un remaniement ministériel à condition de changer les ministres qui sont suspectés de corruption. Le nouveau gouvernement devra inscrire la lutte contre le Covid en tête de ses priorités. Mchichi devra démissionner ou être démis de ses fonctions dans un délai de 6 mois. Ennahda, en qualité de parti vainqueur des dernières élections, devra proposer une personne de son choix pour constituer un prochain gouvernement. Ennahda, toujours ce mouvement, assurera la responsabilité en cas d'échec ou de réussite du gouvernement qui deviendrait son gouvernement. En fin de présidence, Saïed aurait proposé un amendement de loi électorale et du système politique du pays. Ceci avant les prochaines élections électorales qui sont prévues en 2024. Donc voilà pour ce que l'on suspecte qui a été dit, en tout cas ce qui transpire de cette rencontre. Mais encore une fois, prudence, hein, ce ne sont pas des informations officielles. Attendons de voir ce qu'il en sera dans les prochaines semaines. En tout cas, en Tunisie, la question sanitaire n'est absolument pas réglée. Une réunion vient de se dérouler dans le gouvernorat de Tataouine. Il a été décidé de décréter un confinement général, rappelant que dans la semaine, ce sont trois autres gouvernorats de la Tunisie qui ont dû revenir non pas aux gestes barrières, mais aux restrictions de mobilité pour essayer de contenir aujourd'hui la progression du coronavirus et du variant, ce fameux variant Delta qui inquiète tant. Alors soyons prudents, hein, ne disons pas que la Tunisie est emportée par une vague de coronavirus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation sanitaire est extrêmement préoccupante, ce qui explique que cette décision qui a été prise par le gouvernorat de Tataouine. Plus de sécurité, le gouvernement de Nouakchott l'a proposé, la population également le voulait. Donc il y a des opérations de police qui se déroulent actuellement. La dernière vient de démanteler un gang composé de ressortissants non mauritaniens qui étaient dans le trafic d'alcool de contrebande, notamment le fameux Soum Soum qui est bu à Nouakchott, Chami ou encore Nouadhibou. Donc cette bande qui procédait à de la vente d'alcool non réglementaire, eh bien celle-ci a pu être arrêtée par les forces de police. Les trois personnes qui sont impliquées dans ce trafic vont être traduites devant la justice mauritanienne. Libye, on est toujours dans l'après-conférence de Berlin numéro 2, seconde conférence qui a réuni cette semaine les acteurs du débat sur le devenir de la Libye, qui était une réunion propre aux amis de la Libye, qui n'était pas véritablement une réunion libo-libyenne. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a en tout cas un avis sur lequel tout le monde s'entend, et le Premier ministre vient une nouvelle fois encore de le dire et de le répéter, il faut absolument que les forces étrangères, que les mercenaires, que les troupes, que tous les groupes armés, militaires, privés quittent le territoire national libyen. Aujourd'hui, c'est véritablement une idée qui fait force, une idée qui fait unanimité, en tout cas au niveau de la France, des États-Unis et surtout de la Libye, qui demande à ce que ces hommes en armes quittent le territoire national et que l'avenir du pays appartienne à ceux qui font la nation libyenne. Au Maroc, à l'occasion de l'inauguration hier à Rabat du siège du bureau du programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et puis la formation en Afrique, c'est une première sur le continent africain. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Vladimir Voronkov, a tenu à rendre hommage, à remercier le Maroc pour son soutien indéfectible aux travaux de ce centre, donc qui a pour objectif de renforcer les capacités des États membres pour lutter contre le fléau du terrorisme et du radicalisme, toutes les formes de violence du sacré qui trahissent le contenu central des livres qui font le monothéisme aujourd'hui dans le monde.
Cash machine, jackpot, tes poches vides, écho, 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 écho.
Notre escale du jour nous conduit au Liban où la situation économique est non seulement désastreuse, mais face à l'absence des services de l'État, il y a une véritable violence qui s'est installée dans la vie quotidienne des Libanais. C'est vrai que les gens sont absolument excédés de faire la queue durant des heures et des heures devant les stations essence dans l'espoir d'avoir un petit peu d'essence à mettre dans la voiture. Il y a des bagarres qui se déclenchent pour savoir qui a été en premier dans la file d'attente. Parfois même, des gens sortent des armes lorsqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. On a vu des coups de feu partir en l'air. Il y a des gens qui se suicident ou qui, par désespoir, vont détruire leur source de revenus, ce qui est absolument terrible. C'est ce qui s'est passé à Baalbek. Un homme a tenté de se suicider dans son magasin à cause des dettes qui s'étaient accumulées. Un autre a mis le feu à son chariot sur lequel il vendait des haricots. Ça s'est passé dans une rue de Beyrouth. On lui a demandé de retirer sa charrette, mais il a dit « Mais cette charrette, c'est mon seul gagne-pain, je n'ai que ça pour vivre, je n'ai que ça pour gagner de l'argent. » Il a mis le feu à cette charrette, ce chariot, geste de colère, geste de désespoir, geste qui dit toute la souffrance causée par cette crise économique qui n'est pas résolue par un engagement politique fort de l'État libanais qui est toujours sujet à ce différend. On se souvient que le Premier ministre Saad Hariri a été nommé pour former un gouvernement, un nouveau gouvernement. C'était en octobre dernier, mais il n'a toujours pas réussi. Le gouvernement du Premier ministre Hassan Diab a été obligé de démissionner quelques jours après l'explosion terrible du 4 août à Beyrouth qui a fait Plus de 200 morts et des milliers de blessés et des millions de dollars de dégâts qui n'ont toujours pas pu être réparés ou encore remboursés. On est dans une situation absolument cauchemardesque avec toujours des dévaluations de la livre libanaise, une dollarisation de l'économie libanaise avec ces gens qui sont désespérés, cette violence qui monte et des vieux réflexes qui naissent, notamment les gens pour lutter contre la criminalité ou en tout cas l'angoisse de se faire voler le quelques dollars que l'on a en poche, les quelques livres libanaises, eh bien, il y a un recours à, non, peut-être pas des milices, on ne va pas appeler ça des milices, mais en tout cas des groupes qui font la sécurité dans les quartiers. Le mouvement Hamal s'en occupe, le Hezbollah également participe dans les quartiers. Ils vont par exemple sécuriser des magasins, sécuriser des stations-service, remplacer des postes d'officiers de sécurité qui ont dû être supprimés parce que la crise économique est telle que les salaires ne sont plus versés. Donc voilà, ce sont des bénévoles du Hezbollah ou du mouvement Hamal qui font le travail, ce qui témoigne des infrastructures de l'État qui sont tout à fait débordées par l'ampleur de la crise économique qui débouche aujourd'hui sur un climat d'insécurité tout à fait insupportable pour la population civile. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.